Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, très spécial pour nous, en tant que le peuple de Dieu. Tous les jours sont spéciaux dans la maison du Seigneur, évidemment. Mais aujourd'hui, nous fêtons donc la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte, qui est le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance en descendant sur les disciples et apôtres de Jésus, comme l'avait promis Jésus avant de remonter au ciel. Et juste après, les apôtres iront de lieu en lieu pour partager la bonne nouvelle du salut éternel par la seule foi en Jésus. Le titre du message que Dieu m'a mis à cœur, après que les anciens m'aient demandé de prêcher aujourd'hui, c'est « Indépendance ou dépendance au Saint-Esprit ». J'ai beaucoup hésité, ça avait failli être « Marcher seul ou avec Dieu ». J'ai deux passages, donc dans Galates 5, verset 16. « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'œuvre livrée à lui-même. » Et Galates 5, verset 24 à 25. « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Donc, nous allons voir ensemble pourquoi Dieu nous demande et nous appelle à vivre dans la dépendance au Saint-Esprit, qui est un mot fort, la dépendance, et comment il pourvoit à cette demande qu'il nous fait. Ce message, il est en trois parties. On va voir ensemble, dans la première partie, on va essayer de comprendre. Ça pourrait être une prédication à elle toute seule, cette partie. Donc, Nico ? Merci. Oui, ça pourrait être une prédication à elle toute seule, mais on va essayer de comprendre la personne du Saint-Esprit et la valeur de ce don que Dieu nous a fait. Dieu m'a vraiment mis à cœur de commencer par cette partie, parce qu'on ne peut pas dépendre du Saint-Esprit si on ne comprend pas qui est le Saint-Esprit, et surtout si on ne comprend pas la valeur de ce don que Dieu nous a fait. Ensuite, nous verrons évidemment pourquoi on est appelé à dépendre du Saint-Esprit dans notre marche avec Jésus, pourquoi on ne ferait pas notre marche tout seul. Et enfin, comment est-ce que Dieu a pourvu pour nous aider à mener cette vie dans la dépendance au Saint-Esprit. Aujourd'hui, que votre relation avec le Saint-Esprit soit affermie, qu'elle soit en construction ou qu'elle soit incertaine, je prie que cette prédication nous encourage tous au stade où on en est, dans la compréhension de la personne du Saint-Esprit et de notre dépendance à lui. Donc, partie 1, comprendre la personne du Saint-Esprit. Dans cette partie, je vais avoir deux points. Donc, je vais parler de la sainteté de l'Esprit de Dieu et de la grâce du Saint-Esprit à la Pentecôte. J'ai un exemple qui m'est venu. Vous imaginez si on vous fait un cadeau, quelqu'un que vous aimez, vous appréciez particulièrement, vous fait un cadeau. Si vous ne comprenez pas la valeur de ce cadeau, si vous ne comprenez pas ce que ça a coûté à cette personne, bah parfois on peut minimiser ce cadeau et essayer de faire sans. De même, si on a reçu un cadeau mais qu'on ne le déballe pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans et le cœur de celui qui a mis ce cadeau pour nous. Et de même, j'ai un exemple concret avec une amie aussi, une sœur de l'église, je ne la citerai pas. Chez elle, il y avait un objet qu'on lui a offert, quelqu'un qui était très cher à elle lui a offert cet objet, sauf qu'elle ne sait pas trop comment utiliser l'objet, comment gérer, mais comme elle y tient, elle le garde dans son tiroir et de déménagement en déménagement, elle le prend avec elle sans jamais l'utiliser. Donc, si on veut comprendre la personne du Saint-Esprit, on a besoin de comprendre la valeur de ce cadeau que Dieu nous a fait. Et pour comprendre sa valeur, il faut comprendre la sainteté de Dieu. Et la première chose que Dieu m'a mis à cœur sur cette partie, c'est que la Pentecôte célèbre un événement. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un événement. Et encore moins un événement du passé. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas arrivé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit, il a toujours existé avec le Père et le Fils dès la fondation du monde. On le voit dans Genèse 1, versets 1 à 2, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu est présent avant la fondation du monde, avant la création du ciel, de la terre, des mers, des hommes, des animaux, des plantes. Il s'est ensuite manifesté aux hommes, au fur et à mesure de l'histoire, pour guider certains et pour remplir d'autres. Est-ce que vous connaissez la première personne qui a été remplie par le Saint-Esprit ? Ce n'était pas les disciples, ce n'était pas les apôtres. On le retrouve dans Exode 31, versets 1 à 3, et ce n'est pas un prophète non plus. C'est un homme du nom de Bezalel, un artisan, que Dieu a choisi et a rempli de son esprit pour une mission unique. La construction du tabernacle, le lieu de culte et de rencontre que Dieu a choisi pour habiter au milieu de son peuple après leur sortie d'Égypte. Dans ce passage, Dieu dit « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » L'Esprit de Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu, l'image qui va vous permettre de, je l'espère, prendre la mesure de la sainteté de Dieu, c'est la construction du tabernacle avec le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, je ne vais pas faire une prédication sur le tabernacle et je vais vous renvoyer à la prédication de Pierre, dont le titre c'est « Dieu est-il inaccessible ?» où il explique en profondeur la signification de la construction et de chaque étape du tabernacle. Lorsque Dieu a décidé d'habiter au milieu de son peuple, la construction du tabernacle donc rend témoignage de sa sainteté. Le peuple de Dieu devait rester donc à l'extérieur et n'avait contact avec Dieu que par un intermédiaire, le prêtre sacrificateur. Et dans Exode 26, chapitre 26, verset 31, Dieu demande même à Moïse, dans le cadre de la construction du tabernacle, qu'un voile couvre l'accès au lieu très saint dans le tabernacle, le lieu auquel aucun membre du peuple n'avait le droit d'accéder, seuls les prêtres sacrificateurs, choisis par Dieu, pouvaient y accéder. Et en plus, même pour eux, l'accès à Dieu n'était pas libre. Même pour eux. Avant d'y accéder, ils devaient suivre des rites de purification, des sacrifices. Et c'est ce voile, dans l'image du lieu très saint, ce voile avec des chérubins dessus, c'est ce voile qui a été déchiré par Jésus lorsqu'il est mort à la croix. C'est par le sacrifice donc de Jésus que nos péchés sont effacés et que nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu sans intermédiaire. Ça veut dire que chacun de nous qui recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons accès maintenant au Père. Cet esprit que nul n'avait le droit d'approcher librement. Et donc le Saint-Esprit en nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un don que nous recevons uniquement grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est la reconnaissance donc de son sacrifice qui fait de nous des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, mais si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, la première étape, c'est celle-là, c'est en Jésus. Accepter son sacrifice, et le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Cette longue introduction nous permet de prendre la mesure donc du cadeau de la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, Dieu nous fait grâce maintenant, non pas simplement de nous laisser nous approcher de lui, mais il décide de mettre son Esprit Saint en nous. Et là, il faut lire, et merci Henri d'avoir lu tout à l'heure les passages, je vais passer un peu plus rapidement, ce qui s'est passé exactement maintenant le jour de la Pentecôte. Dans Actes 1, verset 3, donc Jésus, juste après sa mort, donc on est après Pâques, il ressuscite et il revient pendant 40 jours auprès des disciples pour leur parler du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas, donc Jésus prenait un repas après sa résurrection avec les disciples, il leur recommande de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que son Père a promis, le don du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et peu de temps après, donc Jésus remonte au ciel, à la droite de Dieu. Et après ces mots, les apôtres, donc ils voient Jésus s'élever dans les airs, et un nuage le cache à leur vue. Ils rentrent à Jérusalem, comme Jésus leur avait demandé, et dès leur arrivée, ils montent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude, dans Actes 1, versets 9 à 14. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. On voit ici les apôtres se retrouver fidèlement là où Jésus le leur avait demandé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et cette partie m'a marquée parce qu'on voit ici la fidélité des apôtres et leur confiance en la promesse de Jésus en restant là où Dieu leur avait demandé pour la dernière fois. Et je ne peux pas m'empêcher de poser la question, est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois ? Ensuite, dans Actes 2, versets 1 à 4, quand le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Les versets continuent. Et aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc la promesse du don du Saint-Esprit à ses disciples avant de monter au ciel, c'est pleinement réalisé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les disciples conformément à cette promesse. Et peut-être que vous vous posez la question, mais est-ce que cette promesse de Dieu de nous remplir de son esprit, est-ce qu'elle est encore valable pour nous aujourd'hui? Oui. Cette promesse que Jésus avait faite, de partir et de nous envoyer le Saint-Esprit est toujours valable aujourd'hui. Amen. Dans Actes 2, verset 39, la parole nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre leur répondit, au verset 38, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don est réel et il n'a pas cessé. La Pentecôte, c'est Dieu qui décide de venir habiter en nous et de faire de nous maintenant son temple. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » Pourquoi maintenant Dieu nous appelle à dépendre du Saint-Esprit dans notre marche en Jésus? Parce qu'on est incapable de le faire sans lui. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, mais nous en sommes incapables par nous-mêmes. Le sacrifice de Jésus restaure la relation avec le Père. Mais le sacrifice de Jésus, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de ce processus de sanctification dans lequel on rentre pour ressembler de plus en plus à Jésus qui est notre modèle parfait. Dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, la parole nous dit « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saint, car je suis saint. » Paul disait dans Romains 7, versets 18-20, pour tous ceux qui se disent peut-être « Mais j'essaye par mes propres forces. » Je me lève et je décide que je ne vais pas faire le mal. Je décide que je ne vais pas me disputer. Je décide que je ne vais pas crier sur mes enfants. Je décide que je ne vais pas me mettre en colère. Et pourtant, encore et encore. Romains 7, versets 18 à 20 nous dit, Paul qui parle, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Pour rappeler le verset du message du jour, donc Galates 5, verset 16, la parole nous dit « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Être livré à soi-même, donc l'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui fait de lui-même son propre maître. L'homme, homme, femme. L'homme avec un grand H, voilà. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui prend ses décisions selon ses désirs, selon ce dont il a envie, sans consulter Dieu. C'est l'homme, la femme, qui essaye dans certains domaines de sa vie de toutes ses forces, encore et encore, et qui tombe encore et encore, comme Paul nous le disait. Donc ma question, c'est dans quel domaine de ta vie es-tu à bout de force ? Dans quel domaine de ta vie essayes-tu encore sans Dieu de toutes tes forces? Ne soyons pas livrés à nous-mêmes, parce que Dieu a pourvu. Et l'aide à laquelle Dieu lui-même a pourvu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, dans cet appel à vivre dans la sainteté, qui pourvoit lui-même. On a un Père, un Dieu qui est si bon avec nous. Tout comme lorsqu'il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac et que Abraham avait obéi jusqu'au bout et qu'au dernier moment, le Seigneur a pourvu pour ce sacrifice. De même, dans cet appel à la sainteté, à la vie avec Jésus, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Et Jésus, il a dit, « Je ne vous laisserai pas seuls, je vous envoie le Saint-Esprit. » Et donc, c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le désir de marcher dans la sainteté et le désir de faire la volonté de Dieu. Et cet esprit, il est appelé comment ? Ésaïe 11, verset 2, cet esprit est appelé esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la parole nous dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu as peur ou tu manques de force? Proclame « J'ai reçu un esprit de force. » Tu manques d'amour? J'ai reçu un esprit d'amour. Tu manques de sagesse? J'ai reçu un esprit de sagesse. Tu te sens faible? J'ai reçu un esprit de force. Forcément, je suis maman, vous les avez vus, de 2 garçons. Et s'il y a bien un domaine de ma vie où je dois dépendre du Saint-Esprit, c'est celui-là. Dans mon rôle de mère. Mais c'est aussi celui où j'ai, par défaut, la volonté d'agir par mes propres forces, mais où je me rends toujours très vite compte que c'est une erreur. Si vous voulez protéger vos enfants du monde, pour ceux qui en ont, des faux amis, des mauvaises influences, priez que le Saint-Esprit les remplisse. Dans Luc 2, verset 40, la parole nous dit, en parlant de Jésus, « Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Ce même esprit, c'est celui auquel Dieu nous donne accès maintenant. C'est cet esprit qui vient nous remplir et qui peut remplir aussi nos enfants, qui peut remplir notre conjoint ou conjointe également. C'est l'esprit de Dieu qui nous rend fort pour tenir ferme. Mais ça demande d'être intentionnel. Intentionnel dans la volonté de laisser la place à l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit « La prière du juste est d'une grande efficacité, mais lorsque nous prions, comme Dieu nous le demande. » Dans Romains 8, verset 26, la parole nous dit « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Lorsque vous êtes à bout de force, lorsque vous vous dites « Mais je n'ai même plus la force de prier », le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Et il gémit en nous et il parle au Père pour nous. Quelle grâce! C'est ce à quoi Dieu a pourvu pour nous. 1 Jean 4, verset 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est-à-dire l'ennemi, Satan. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de marcher dans ce à quoi Dieu nous appelle. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui vient nous conduire dans la vérité, qui vient nous aider dans notre faiblesse, qui nous aide à prier, qui transforme nos cœurs, nous rend capables de faire la volonté de Dieu, nous rend capables d'abandonner les œuvres de notre ancienne nature. Vous ouvrez la Bible, vous vous dites « je n'y comprends rien », ce qui peut arriver. C'est normal. Parce qu'il nous est impossible de lire et comprendre la Bible sans le Saint-Esprit, sans dépendre du Saint-Esprit. Il nous est impossible de vivre pleinement notre vie d'enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc la prière, je n'y arrive pas. Seigneur, envoie ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi de ta sagesse, de ton intelligence, de ta force, de ton courage. Nous avons donc continuellement besoin d'être remplis et conduits par le Saint-Esprit pour devenir semblables à Christ dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre mariage, auprès de nos enfants, au sein de notre Église, dans nos amitiés, au travail, partout. Ce n'est pas juste le dimanche, c'est tous les jours, Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton esprit. Et cette vie de dépendance au Saint-Esprit, elle demande une chose importante de nous. C'est notre soumission de cœur et la crucifixion de notre chair. C'est un grand mot qui peut faire peur. Mais Galates 5, 24 nous dit « Ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous sommes donc appelés à crucifier notre chair. Ça veut dire simplement la faire mourir, la faire passer en dernier plan, afin que la volonté, les désirs de Dieu puissent prendre la place. Ça veut dire mourir à nos désirs, à ce que nous, on veut, pour laisser les désirs de Dieu prendre toute la place. La parole nous dit dans le psaume, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand Dieu nous dit mourir à nos désirs, ça ne veut pas dire abandonner tout ce qu'on aimerait, mais ça veut dire soumettre nos désirs à Dieu pour que lui prenne toute la place et lui met ses désirs qui sont bons pour nous en nous. Ça ne veut pas dire que Dieu veut nous priver de tout ce qu'on aime, non. Ça veut dire que Dieu veut mettre les bons désirs en nous, ceux qui viennent de lui. Ça veut dire lui donner la place. Ça veut dire avoir un cœur qui est soumis, avoir un cœur qui est humble. Ça veut dire avoir une attitude de cœur qui dit « Seigneur, je ne suis pas capable par mes propres forces, je me soumets à toi. » Et rechercher le Saint-Esprit, c'est un sacrifice. Vous le voyez, tout à l'heure, on parlait du tabernacle où les prêtres sacrificateurs devaient se purifier, devaient faire des sacrifices pour avancer, pouvoir rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Oui, rechercher Dieu, rechercher le Saint-Esprit, c'est un sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice? Un sacrifice de temps, un sacrifice d'attention, un sacrifice de patience. Mais la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, c'est plus difficile. Paul parle même d'une course à gagner. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, la parole nous dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. » J'ai eu cette image du marathon de Paris que j'ai trouvée pour un peu illustrer, c'est pas une illustration parfaite, un peu illustrer le sens de mes propos et de cette course dont nous parle Paul. Imaginez une course qui est difficile, où on vous propose une aide qui vous permet de la finir. Et ici, vous voyez les coureurs qui, certains, s'arrêtent au stand de ravitaillement et certains, je pense peut-être, dépassent le stade de ravitaillement en se disant « J'ai de l'énergie, j'ai de la force, je vais y arriver. » Le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu met en nous pour nous permettre de nous maintenir debout et qui nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour finir notre course. Et donc j'ai fait le parallèle un peu avec les titres. Donc dans la course de marathon, même dans cette course, et si vous vous intéressez à la course et que vous courez, vous le savez peut-être aussi, le ravitaillement, c'est une stratégie. Ça fait partie de la stratégie pour finir la course. Et donc les ravitaillements sont mis en place à intervalles réguliers dans la course pour que les coureurs puissent se ravitailler. Et en dessous, c'est écrit en petit, les coureurs pouvaient trouver de l'eau, des fruits secs, des fruits frais et du sucre tous les 5 km pour se ravitailler. De quoi retrouver un peu d'énergie pour finir l'épreuve. Donc dans le monde, les coureurs, eux, ils savent. Et Paul nous parle d'une course. Dans la Bible, nous parle que notre vie et notre marche chrétienne, c'est une course. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et Dieu... Tout comme les coureurs ont des ravitaillements tous les 5 km, nous on a un ravitaillement qui est là, et qui n'est pas tous les 5 km. C'est un ravitaillement auquel on a accès à chaque moment, à chaque instant. Dieu nous remplit de tout ce dont on a besoin. Ici, ils ont besoin de fruits secs, fruits frais, sucre, mais nous, on a les fruits de l'esprit. La parole nous parle. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin de paix, de bienveillance, d'amour, de patience. Ce sont des fruits de l'esprit. Et qu'on ne trouve pas à des intervalles réguliers, mais Dès qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous et avec lui nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour finir notre course. Et les coureurs de Dieu, j'ai appelé ça comme ça, lorsque eux se ravitaillent au stand non pas du monde mais au stand du Saint-Esprit, ils trouvent de la force, de la sagesse, de l'amour, de l'intelligence, de la connaissance, de l'habileté. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Betsalel, l'artisan que Dieu a rempli de son esprit pour qu'il puisse être habile dans la construction du tabernacle. Dieu nous remplit aussi de conseils à chaque instant. Mais Dieu ne nous pousse pas au stand de ravitaillement. Ici, le stand de ravitaillement ne barre pas la route aux coureurs en disant « tu es obligé de t'arrêter ». Non. Dieu se tient là. Et on choisit. Il nous appelle, c'est Dieu qui nous appelle d'abord. Mais nous nous soumettons à lui et nous répondons à cet appel. Et le modèle qu'on a, c'est Jésus, qui plaçait la volonté de Dieu au-dessus de la sienne. Dans Jean 6, verset 38, la parole nous dit, Jésus pas, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. De même, nous sommes sur terre non pas pour faire notre volonté, mais la volonté du Père qui nous a choisis et nous a appelés par son nom. » C'est cette volonté que nous devons rechercher en tout temps. Et nous avons reçu le Saint-Esprit comme aide pour entendre et faire la volonté de Dieu. Et là, peut-être vous vous dites, mais comment on fait ? Eh bien, la question, c'est comment Jésus faisait ? Jésus faisait ces sacrifices-là. Le sacrifice de passer du temps dans la présence de Dieu. Le sacrifice de prier en tout temps. Demander au Père sa volonté. Il faisait silence. Il s'éloignait de la foule. Il était loin du bruit. Parce que parfois, la volonté de Dieu, elle est claire, elle est rapide, elle est précise, et on aime bien quand c'est comme ça. Mais parfois, sa réponse se trouve en passant du temps dans sa présence, en lisant et en relisant sa parole, en écoutant des louanges, des adorations. Parce que c'est en passant du temps dans la présence de Dieu qu'on apprend à reconnaître et entendre sa voix. Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et la voix de Dieu, elle est toujours conforme à sa parole. Donc lorsqu'on entend Dieu, c'est toujours conforme à sa parole parce que sa parole ne se contredit pas. Et cette voix, elle n'est pas toujours audible. Ça peut être une pensée, ça peut être un verset, ça peut être un désir qui naît en nous. Ça peut être une parole de la bouche d'un frère, d'une sœur. Parce que dans Job 33, verset 14, la parole nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Donc Dieu nous parle. Et mon dernier point sur cette troisième partie, où on parle de comment mener notre vie dans la dépendance au Saint-Esprit. Si vous vous rappelez, dans le tabernacle, il y avait donc un feu, le feu de l'Esprit. Et donc dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé, dans Lévitique 6, chapitre 6, verset 6, que le feu brûle constamment sur l'autel et qu'il ne s'éteigne pas. Et tout comme Dieu demandait qu'au sein du tabernacle, le feu brûle sans cesse, nous sommes aussi et toujours appelés à attiser le feu de l'Esprit en nous sans cesse. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 28, la parole nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et que le Dieu de la paix vous conduise lui-même, par son esprit donc, à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les sacrifices ne nous font plus mériter la relation avec Dieu, car nous sommes aimés, sauvés, choisis, rendus justes une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, les sacrifices qui attisent le feu du Saint-Esprit en nous, ce sont les sacrifices de louange et d'adoration que nous faisons, même lorsque nous n'avons pas le cœur à louer et adorer. Ce sont les sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, de dire merci à Dieu en tout temps, même lorsque notre circonstance, il n'y a rien pour lequel on a l'impression qu'on peut dire merci. C'est prier sans cesse. C'est jeûner. C'est sacrifier. C'est faire des offrandes volontaires. C'est servir Dieu. Et ces disciplines spirituelles auxquelles Dieu a pourvu pour nous, ce sont des disciplines qui ne sont pas motivées par la loi et par un poids. C'est motivé par l'amour pour Dieu, la volonté de conserver comme un trésor précieux cet Esprit Saint qu'il a mis en nous et ce désir d'entretenir le feu de l'Esprit en nous. Parce que plus ce feu brûle, plus il nous purifie pour nous aider à ressembler tous les jours un peu plus à Christ et accomplir la volonté du Père. Que le Seigneur donc nous fasse grâce et qu'il nous aide à dépendre de son esprit. Que le Seigneur nous fasse grâce de recevoir, d'avoir cette révélation de la personne du Saint-Esprit et qu'il vienne nous remplir dans tous les domaines de notre vie. Soyez bénis. Amen.